Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Ce matin, nous avons passablement de lecture en vue de la prédication et on va naviguer un peu en différents endroits de la parole. Et le premier texte, qui est le texte principal, c'est l'évangile de Marc au chapitre 10 et on va lire les versets 1 à 12. Jésus se mit en route pour se rendre aux confins de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Les foules s'assemblèrent de nouveau près de lui et selon sa coutume, une fois de plus, il les enseignait. Les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit « Que vous a commandé Moïse ?» Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire un acte de divorce et de répudier sa femme. Et Jésus leur dit « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a écrit pour vous ce commandement. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux époux deviendront une seule chair. » Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples le questionnèrent à nouveau sur ce sujet. Il leur dit, « Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère envers la première, et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » Et pour le prochain texte, on va aller dans le cinquième livre de la Bible, Deutéronome, au chapitre 24, les versets 1 à 4. Une fois n'est pas coutume, on va lire ce passage-là dans la version Tob, qui en fait comporte moins d'ambiguïté sur la compréhension du texte. Lorsqu'un homme prend une femme et l'épouse, puis trouvant en elle quelque chose qui lui fait honte, cesse de la regarder avec faveur, rédige pour elle un acte de répudiation et le lui remet en la renvoyant de chez lui, lorsque la femme est donc sortie de chez lui, s'en est allée, puis est devenue la femme d'un autre, si l'autre homme cesse de l'aimer, rédige pour elle un acte de répudiation et lui remet en la renvoyant de chez lui, ou bien si l'autre homme, donc le deuxième à l'avoir épousée, qui l'avait prise pour femme, meurt, alors son premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la prendre pour en faire sa femme après qu'elle aura été rendue impure. C'est une abomination devant le Seigneur. Tu ne jetteras pas dans le péché le pays que le Seigneur ton Dieu te donne comme patrimoine. Et puis on retourne dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7, depuis le verset 1. Et puis cette fois-ci, je reprendrai dans la lecture selon la version dite à la colombe. Donc Romains, chapitre 7, les versets 1 à 3. Ignorez-vous, frères, je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi régit l'homme aussi longtemps qu'il vit? Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est libérée de la loi, elle n'est donc pas adultère en devenant la femme d'un autre. Et puis on va un tout petit peu plus loin, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 7 également, depuis le verset 10 jusqu'au verset 16. « À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, ne répudie pas sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui le dis. Si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas. Et si une femme a un mari non-croyant, qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie pas son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère, autrement vos enfants seraient impurs, tandis qu'en fait ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur n'est pas lié en pareil cas. Dieu nous a appelés à vivre dans la paix. En effet, comment savoir, femme, si tu sauveras ton mari? Ou comment savoir, mari, si tu sauveras ta femme? Et on retourne dans l'Ancien Testament, cette fois-ci dans Genèse, le chapitre 1, et on lira juste le verset 27 dans un premier temps. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Et puis on va un tout petit peu plus loin dans Genèse 2, les versets 22 à 25. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Cette fois c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. » Et un dernier passage où on retourne dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, les versets 31 et 32. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église.
Impossible de comprendre la parole de Dieu en étant divorcé du Saint-Esprit. En fait, nous devons être mariés au Saint-Esprit quelque part pour être guidés, conduits, soumis. Et nous comptons aujourd'hui encore sur l'œuvre du Saint-Esprit pour comprendre sa parole. Pierre a vécu pendant 3 ans avec Jésus. Il a parlé avec ce maître incroyable qui connaissait tout. Et oui, il connaissait tout. Pierre l'a vu. Il a vu l'amour que Jésus avait pour son Église, si grand qu'il a donné sa vie pour elle. Il a patiemment enseigné, toujours construit sur les fondations posées par Dieu dans l'Ancien Testament. Marc a écouté et sûrement entendu des dizaines de fois les histoires vraies de Pierre sur Jésus. Et un jour, il a mis cela par écrit. C'est pour cette raison que nous lisons le journal de Pierre écrit par Marc. Et donc nous parcourons tout cet évangile texte après texte et nous arrivons aujourd'hui sur un petit article où des opposants à Jésus veulent le piéger sur le divorce. Et cela lui donne l'occasion de parler du mariage. Et c'est donc la seule fois dont Jésus parle effectivement du mariage dans l'évangile selon Marc, ce qui nous fait réfléchir plus particulièrement sur ce sujet ce matin. Le début du texte de Marc 10, donc je vous encourage à avoir vos Bibles ouvertes dans Marc au chapitre 10, nous voyons l'importance que Jésus donne à l'enseignement. Regardez avec moi le verset 1 de Marc 10. Jésus se mit en route pour se rendre aux confins de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Les foules s'assemblèrent de nouveau près de lui, et selon sa coutume, une fois de plus, il les enseignait. Selon sa coutume, une fois de plus. Une façon de parler pour indiquer que c'est une action ordinaire, que c'est une action intentionnelle. C'est ce que Jésus, en fait, faisait habituellement. Et que faisait Jésus habituellement? Eh bien, Jésus avait l'habitude d'enseigner. Jésus avait l'habitude d'enseigner, c'était son plus grand travail. N'oublions pas que c'est Dieu venu sur terre. Et il a beaucoup de choses à transmettre à ses disciples et à toute l'humanité. L'enseignement chez Jésus, c'est comme l'eau qui sort d'une source ou comme l'eau qui sort d'une fontaine. La fontaine ou la source ont pour principale fonction de donner de l'eau, comme Jésus nous donne son enseignement qui est toujours la vérité et une vérité incarnée. Cela signifie que pour nous encore aujourd'hui, le plus important est d'écouter et de chercher à comprendre et mettre en pratique les enseignements de Jésus, qui est Dieu fait homme pour nous enseigner par ses paroles, par ses œuvres, par lesquelles il est venu nous sauver. Or, que va-t-il donc nous enseigner aujourd'hui? Eh bien, en fait, ce sont les pharisiens qui viennent trouver Jésus pour l'éprouver, pour le tester, pour le piéger. En fait, ils veulent qu'il parle d'un sujet polémique. Un peu comme si on vous invitait à la télé. Vous imaginez, vous êtes invité sur un plateau télé. Et on vous dit, après avoir vanté l'importance de l'amour romantique, « Alors, cher invité, lorsque la flamme n'est plus là, il est permis de divorcer, non ?» Vous savez que si vous répondez « oui », vous allez avoir mauvaise conscience. Parce que Dieu a institué un mariage qui n'appelle pas le divorce. Et en disant « oui », vous faites en quelque sorte de la publicité pour le divorce. Et si vous répondez « non », Eh bien, vous savez que vous allez avoir affaire aux foudres du présentateur qui va se moquer de vous et de votre foi. Et sans parler de tous vos collègues qui regardent l'émission, qui se moqueront de vous, peut-être même ne vous parleront plus après cette émission. Jésus est mis dans une situation semblable, voire même plus dangereuse, parce qu'il est sur le territoire d'Hérode, qui a déjà pas hésité à faire arrêter Jean-Baptiste parce qu'il avait critiqué son divorce. Si Hérode agissait de même avec Jésus, cela arrangerait bien les pharisiens. Les pharisiens comptaient aussi sur la réaction des personnes divorcées. Si Jésus était contre, toutes ces personnes allaient réagir. Ou alors, la réaction des personnes qui étaient restées mariées pour respecter la loi, sans être heureuses dans leur mariage, et si Jésus était pour le divorce, elles réagiraient contre lui. Il se peut aussi que les pharisiens voulaient faire entrer Jésus dans une école de pensée de l'époque, comme celle de Hillel. Connaissez l'école de Hillel ? Non, c'est pas grave. C'est simplement que c'était une école dans laquelle le divorce était permis de façon très laxiste, selon des raisons égoïstes. Simplement un repas brûlé ou simplement préférer quelqu'un d'autre suffisait pour le divorce selon cette école. Ou l'école de pensée de Shammai, donc il y a Hillel et Shammai, qui ne permettait le divorce que si la femme était coupable d'inconduite sexuelle. Ainsi, Jésus ferait partie d'un groupe et se mettrait l'autre à dos. Voilà un petit peu les plans des pharisiens. Mais Jésus répondra en deux temps, et ce sera nos deux points ce matin. Le premier, c'est que Jésus n'aime pas le divorce, qui est un produit de la dureté du cœur. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est que Jésus aime le mariage, qui est une invention du Créateur. Jésus ne sera donc ni de l'école de Hillel, ni celle de Shammai. Il ne s'en prendra ni aux divorcés, ni aux mariés résignés. Il ne s'attaquera pas à Hérode, tout en permettant à chacun de ces groupes de comprendre la beauté, la profondeur et la sainteté du mariage. Entrons dans notre premier point. Jésus n'aime pas le divorce, c'est un produit de la dureté du cœur. Et je vous invite à relire les versets 2 à 5 et 10 à 12. Les pharisiens l'abordèrent, donc les pharisiens abordent Jésus, et pour l'éprouver lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit. « Que vous a commandé Moïse ?»« Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire un acte de divorce et de répudier sa femme. » Et Jésus leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a écrit pour vous ce commandement. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. » J'ai été un verset plus loin, mais ce n'est pas grave. Verset 10. « Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples le questionnèrent à nouveau sur ce sujet. Il leur dit, « Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère envers la première, et si une femme répudie son mari et en épouse une autre, elle commet un adultère. » À la question des pharisiens qu'ils posent à Jésus, Jésus répond par une question. En fait, c'est un excellent exemple face à tous ceux qui veulent nous piéger, ne pas répondre tout de suite. Invitons l'interlocuteur à prendre ses responsabilités. Posons des questions en retour. Or, les pharisiens, ils étaient prêts pour cette question. Les pharisiens citent Deutéronome 24, verset 1, qui justifie le divorce. Alors qu'en fait, que le texte de Deutéronome ne donne pas l'ordre de pratiquer le divorce, mais plutôt comment le réglementer pour ne pas commettre une abomination devant Yahvé en divorçant et en se remariant avec la même personne qui entre-temps est allée avec quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi nous avons lu le texte dans la version Tob tout à l'heure, puisque dans cette version-là, on se rend bien compte qu'il n'y a pas d'ordonnance du divorce, comme c'est d'ailleurs dans le texte original. Le seul texte de loi dans l'Ancien Testament qui parle de divorce n'est donc pas là pour le justifier ou l'encourager, mais plutôt pour réglementer ce que Jésus considère comme un produit de la dureté du cœur, afin que le pays ne soit pas souillé. En fait, vous ne trouverez nulle part dans toute la Bible l'institution ou l'ordonnance du divorce. En fait, le divorce est une conséquence de la dureté de cœur et n'est pas en lien avec l'idéal de Dieu. Le divorce est une conséquence de la dureté du cœur. La dureté de cœur, le cœur de pierre, conduit à des catastrophes humaines et familiales. Le divorce n'est jamais une bonne chose. Jamais. Le divorce n'est jamais une bonne chose, malgré tout ce que le monde peut nous faire croire. Le divorce n'est jamais une bonne chose, malgré tout ce que le monde peut nous faire croire, avec par exemple le divorce à l'amiable, par exemple. Pourquoi le divorce n'est jamais une bonne chose? Parce que c'est le produit de cœurs durs. C'est le produit de péchés répétés, de conflits non réglés, de repentance non vécue, de pardon non accordé, de la grâce de l'évangile non vécue. En fait, un divorce n'arrive pas soudainement. Dans une relation paisible, saine, remplie de grâce et de bienveillance, de dons de soi, de joie de vivre les dons que Dieu donne, conscient de notre état de pécheur dans un monde déchu. Non, un divorce arrive suite à de nombreuses petites choses qui proviennent d'un cœur endurci, poussé par l'incrédulité, par l'égoïsme et l'orgueil, et qui ne vit pas ce que nous avons vu, par exemple, à l'étude biblique jeudi passé, qui disait dans Éphésiens, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, ne donnez pas accès au diable. » Un divorce aura des conséquences bien plus grandes que simplement une séparation de deux personnes. J'aimerais vous donner quelques conséquences non exhaustives qui dépendront bien entendu du contexte familial et de la situation, mais que nous retrouverons généralement plus ou moins dans tous les divorces après un certain temps. La première conséquence, c'est que le divorce endommage l'idéal du mariage. Le divorce endommage l'idéal divin du mariage dans la pensée de toute personne qui en entend parler. Ça, c'est la première conséquence. C'est une conséquence qui est grave devant Dieu. Deuxième conséquence, le divorce est un déchirement. C'est un déchirement, et je vais vous expliquer quel type de déchirement ici. C'est un déchirement du tissu relationnel de base d'un enfant qui naît d'un père et d'une mère, tous deux choisis pour lui par Dieu et qui, par leur relation de couple, doivent démontrer l'amour sacrificiel, la sécurité, la vérité, la soumission, le respect dans un cadre de confiance. Mais le divorce, c'est le déchirement de ce tissu relationnel voulu par Dieu. Troisième conséquence, le divorce diminue, envenime, ou bien plus souvent encore fait perdre les relations qui n'auraient pas existé s'il n'y avait pas eu de mariage précédent. Et le divorce sépare non seulement les deux personnes qui se séparent. Donc le divorce diminue, envenime, ou bien plus souvent encore fait perdre les relations qui n'auraient pas existé s'il n'y avait pas eu le mariage précédent. Quatrième conséquence, le divorce justifie d'autres manières de vivre des partenariats non bibliques. Le divorce justifie d'autres manières de vivre des partenariats non bibliques, étant donné que le mariage institué par Dieu entre un homme et une femme est vu comme un échec. Et ça, on en a entendu parler il y a quelques mois, très clairement, comme il y a des divorces, d'autres partenariats pourraient être beaucoup plus remplis d'amour. Cinquième conséquence, le divorce déstabilise la société entière. Le divorce déstabilise la société entière car c'est la cellule de base choisie par Dieu pour fonder un tissu social basé sur la confiance, l'engagement réciproque, l'abnégation, la recherche du bien de l'autre, la responsabilité et la procréation. Donc le divorce déstabilise en fait la société entière. Sans parler des blessures, des traumatismes, des problèmes financiers, des troubles émotionnels, le terrain préparé pour de nouveaux divorces, la tristesse des faits qui rappelle la douleur, la solitude, la culpabilité placée sur les autres, les problèmes comportementaux, etc. Dieu hait le divorce. Pas du verbe être, du verbe haïr. Dieu hait le divorce selon Malachie 2,16. Donc détestons-le autant que lui. Jésus n'a pas un seul mot positif pour le divorce. Et si nous trouvons la clause de l'infidélité dans sa bouche en Matthieu 19,9, ce n'est jamais pour encourager cela. D'ailleurs, Paul, lorsqu'il reprend les paroles de Jésus, hein, 1 Corinthiens 7, les versets 10 et 11, il dit « À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi mais le Seigneur. » En fait, il dit ça, non pas moi mais le Seigneur, parce que Paul fait référence à ce qui est écrit, ce que Jésus a dit. Hein, que la femme ne se sépare pas de son mari, si elle est séparée qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie pas sa femme. Le divorce n'existe que à cause de la dureté de cœur, et pas parce que des personnes vivent de manière sainte et juste. Si un homme ou une femme divorce parce que le conjoint est adultère, sans repentance et changement, l'homme ou la femme qui subit l'infidélité n'a pas le cœur dur. Mais l'autre, oui. Et ce n'est pas la sainteté du conjoint fidèle qui est la cause du divorce. C'est la dureté de celui qui vit l'infidélité endurcie. De même pour le conjoint non chrétien qui veut divorcer ou qui met la vie en danger, ce qui est la même chose, avec celui qui est devenu chrétien après le mariage. Le divorce n'est pas causé par celui qui est en Christ. Et donc qui a un cœur transformé, qui cherche à vivre un amour et fidélité, mais à cause du cœur dur du conjoint non chrétien qui demande le divorce. Le divorce n'existe que à cause de la dureté de cœur. C'est un élément vraiment important à comprendre. Le divorce n'existe que à cause de la dureté de cœur. Comme le chauffage n'existe que parce que le froid existe. Eh ouais, si le froid n'existait pas, il n'y aurait pas besoin de chauffage qui pollue, enfin bon. De même, si la dureté de cœur n'existait pas, il n'y aurait pas de divorce. Il est donc très important pour celui qui veut vivre, selon la Bible, de détester le divorce et ce qui le cause, et de chercher à ne pas vivre l'endurcissement de cœur en vivant dans la vérité, dans le pardon, la grâce, la responsabilité et le don de soi. Il est vrai que certains, même parmi nous, ont vécu le divorce. Cela ne doit pas les empêcher de le détester et de s'en repentir de l'avoir provoqué si c'est le cas. Dieu fait grâce aux personnes divorcées en leur donnant de trouver en lui leur repos et leur joie. Et pour les victimes du divorce, que ce soit le conjoint fidèle ou chrétien qui a cherché à vivre la réconciliation selon les principes bibliques qui peuvent être résumés par la main de l'artisan de paix, pour ces conjoints victimes, soyons compatissants. Encourageons, guidons vers le seul consolateur et reconstructeur, Jésus-Christ. De même pour les enfants, les familles, les églises, le voisinage, les collègues et tant d'autres personnes directement impactées par le divorce, même si ceux qui divorcent ne veulent pas l'admettre. Le divorce a des conséquences sociales très grandes. Mais là aussi, Jésus-Christ est le consolateur et le reconstructeur. Si Jésus n'aime pas le divorce et que le divorce est le produit de la dureté de cœur, rappelons-nous que Jésus est venu pour nous sauver du péché et de la dureté de notre cœur. Tous ceux qui sont en Christ n'ont plus le cœur dur. Tous ceux qui sont en Christ n'ont plus le cœur dur. Rappelons-nous aussi que le mariage est une institution divine extraordinaire qui manifeste quelque chose de bien plus grand que l'union entre deux personnes. Passons donc à notre deuxième point. Jésus aime le mariage. C'est une invention du Créateur. Relisons les versets 6 à 9. « Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux époux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Le mariage n'est pas une invention de l'homme. Le mariage n'est pas une invention de l'homme. Pourquoi est-ce que je peux affirmer cela? C'est parce que Dieu, dans le livre de la Genèse, qui nous enseigne sur les origines de l'humanité, qui nous indique ce que le Créateur a mis en place dès le départ, nous le dit. Nous avons lu le texte dans Genèse 2, 24, vous le connaissez peut-être par cœur, le voici à nouveau. Hein. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et ce n'est pas par hasard si Jésus cite exactement ce texte, parce que c'est le fondement, l'origine du mariage qui n'avait aucune clause de divorce. Les clauses du divorce sont venues après la chute, après l'entrée du péché dans le monde, après que le cœur se soit endurci. Alors, nous voyons dans ce texte de Genèse que trois étapes fondent le mariage. Et ces trois étapes sont simples et profondes. Les trois étapes: quitter, s'attacher, devenir une seule chair. Quitter, s'attacher, devenir une seule chair. Premièrement, donc, l'homme quitte son père et sa mère. Implicitement, il en est de même pour la femme. Donc, ce n'est pas une rupture relationnelle avec les parents. C'est quitter un foyer pour en créer un nouveau indépendant avec ses propres structures de responsabilité. Une cause de divorce est que l'homme ou la femme ou les deux n'ont pas quitté leurs parents pour devenir une nouvelle entité indépendante. C'est malheureusement une cause de divorce. Alors que vivre ce que Jésus aime est tellement réjouissant et rassurant. Un nouveau foyer doit être indépendant, sans pour autant, comme je l'ai dit, couper les relations, mais quittant la structure de responsabilité du foyer parental pour en créer un nouveau. Deuxièmement, nous avons vu que la deuxième étape, c'est l'attachement. Or, il ne s'agit pas ici d'un attachement sentimental, même s'il est bon d'être attaché sentimentalement. Il s'agit ici d'une alliance. Cette alliance est une merveilleuse image, en fait, de l'alliance de Jésus-Christ avec l'Église. Il n'y a pas de relation plus profonde, plus forte dans notre pèlerinage terrestre que cette relation de mari et d'épouse. Et c'est en fait un reflet d'une autre alliance, celle de Christ. Et une des causes de divorce, c'est que les amoureux ne font pas alliance avant de vivre ensemble. Ok, on fait un engagement contractuel avec clause de séparation qui est appelé mariage, qui est pris pour des raisons financières, de reconnaissance d'enfant ou parfois pour réaliser un rêve romantique. Mais pas comme une alliance pour la vie entre un homme et une femme à l'image de Christ et de son Église dont l'alliance ne sera jamais brisée. Alors que vivre ce que Jésus aime est tellement encourageant, rassurant, réconfortant. Il n'est pas dit que parce que l'on se marie, tout devient facile. Enfin, il y en a qui sont mariés ici, ils peuvent le dire. Non, tous les problèmes ne sont pas réglés parce qu'on se marie. Particulièrement les péchés sexuels, que c'est le bonheur sur terre assuré pour chaque instant. Non, le mariage est un lien ou un lieu de croissance spirituelle, un lieu de croissance. Quand vous lisez Éphésiens 5, les versets 25 à 27, il nous parle de l'image, enfin non pas, de la source de ce que le mariage doit être comme image. Où il a dit, le Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Cela signifie que comme l'Église est sanctifiée par Christ dans l'alliance entre Christ et l'Église, et cela concerne autant les hommes que les femmes d'ailleurs, hein, qui sont dans l'Église, le mariage qui le reflète n'aura pas un but moins grand. Et passer par la purification, c'est reconnaître ses fautes, c'est pardonner, c'est vivre la grâce, c'est se donner, c'est s'aimer et toujours rechercher la réconciliation, et le plus vite possible. Parce que plus on attend pour régler un problème, plus il devient grand et semble insurmontable et se greffera à tous les autres problèmes non réglés. Un autre élément important ici, et Dieu en parle avec force dans l'Ancien Testament, l'alliance est si forte dans le mariage qu'un adorateur de Dieu ne peut pas s'unir avec un non-adorateur de Dieu. Un adorateur de Dieu ne peut pas s'unir avec un non-adorateur de Dieu, que la Bible nomme adorateur d'idole. Impossible qu'une personne avec l'Esprit de Dieu puisse être attachée avec une personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Et si quelqu'un le fait, il est en abomination aux yeux de Dieu. Et le Nouveau Testament ne change pas de discours. 1 Corinthiens 10, 2 Corinthiens 6, etc. Et celui ou celle qui est uni à Christ, donc croyant, ne peut pas s'unir avec un non-croyant. C'est comme vouloir unir le royaume de Dieu avec le monde. C'est pas possible, c'est deux royaumes différents. Le croyant doit donc choisir entre Christ et le non-croyant avec toutes ses conséquences. Vous savez, l'homme le plus sage du monde, connaissez l'homme le plus sage du monde? C'est vraiment l'homme le plus sage du monde, qui s'appelle Salomon. Il a reçu la sagesse de Dieu, comme personne d'autre. Il n'a pas voulu écouter Dieu sur ce point, et ses femmes étrangères l'ont détourné de Dieu. C'est clairement dit encore dans Néhémie 13, 26, qui fait le bilan de sa vie. Mais, quelle bénédiction d'avoir un même esprit, Une même vision modelée par la parole de Dieu qui est notre guide, notre autorité. Ainsi, ce n'est pas l'homme ou la femme qui ont le dernier mot, mais la parole de Dieu. Quelle bénédiction d'avoir un même esprit, une même vision modelée par la parole de Dieu qui sera notre guide et notre autorité. Ainsi, ce n'est pas l'homme ou la femme qui aura le dernier mot, mais la parole de Dieu. Ainsi, l'espérance ne se trouve pas dans l'homme ou la femme qui devrait avoir, dans cette situation, être une référence sans erreur. Non, c'est la parole de Dieu qui sera, et il sera toujours possible de se tourner ensemble vers la parole de Dieu, vers Dieu. Un des éléments que je chéris le plus, c'est de pouvoir prier avec mon épouse. Parce que là, nous sommes ensemble sous l'autorité de celui qui a inventé le mariage, qui va nous guider dans la manière de vivre qui est juste et bonne. Nous pouvons vraiment être en communion et savons que le Créateur du mariage, voudra toujours notre réconciliation. Toujours. Jésus aime le mariage, qui vit cette deuxième étape de l'attachement, qui est l'alliance, avec tout ce que cela implique et qui est symbolisé par l'anneau que les époux portent au doigt. La troisième étape du mariage, c'est de devenir une seule chair. Alors, s'il est question de l'union physique, ce n'est pas uniquement cela. En fait, les valeurs s'unissent. La manière de conduire le foyer s'unissent. L'altérité... Oula, tu sais ce que ça veut dire, Némi, l'altérité? Moi, je vais t'expliquer. L'altérité, c'est le fait d'être autre, d'être différent. Et en fait, un homme et une femme sont différents. Voilà. Ça, t'as déjà vu. Hein? D'accord. Donc l'altérité permet l'union, elle permet une riche communion et une multiplication. Les différences sont des trésors qui se complètent et s'affinent. Une cause de divorce est l'union sexuelle avec des partenaires sans alliance et fidélité. Si cela a été le cas avant le mariage, ce qu'on appelle la fornication, pourquoi ne pas le faire pendant, ce qui est appelé l'adultère, ce qui brise la confiance et ouvre la porte de la séparation. Et je crois aussi que la pornographie et la désinhibition sexuelle est une grande cause de divorce, parce qu'elle amène une dimension de comparaison, de performance, qui n'existe pas si nous vivons dans un contexte de pudeur où l'homme et la femme n'ont connu et ne connaissent que leur conjoint, et s'en réjouissent, n'en ont pas honte, et sont en cheminement ensemble vers une union toujours plus harmonieuse et respectueuse. Jésus aime le mariage qui vit cette étape de devenir une seule chair. Jésus aime tellement le mariage et le porte en si haute estime qu'il dit clairement que le mariage est une union divine. Vous avez vu le verset 9 ? Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Ce que Dieu a uni. Si vous êtes mariés, Dieu vous a uni. Quel que soit votre passé, Dieu pardonne. Lorsque vous vous repentez, votre union est une unité que Dieu a scellée. Le mariage biblique entre un homme et une femme doit être tenu en haute estime. Le mariage biblique entre un homme et une femme doit être tenu en haute estime, car Dieu le tient en haute estime. Nous le tenons en haute estime parce que Dieu le tient en haute estime. Prenons soin de nos mariages. Préparons-nous pour le mariage. Car c'est la meilleure chose à faire pour encourager, protéger et fortifier la société, les enfants et l'Église. Alors il est vrai que le mariage prendra fin par la mort. Il ne sera plus présent de la même manière après la mort. Jésus dit, « En effet, quand on se relève d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans les cieux. » Matthieu 12, 25. Le mariage humain n'existe pas après la mort. Et comme le dit un auteur connu, j'aime bien cette citation, je vous la donne. « L'ombre de l'alliance entre le mari et sa femme fait place à la réalité de l'alliance entre Christ et son Église glorifiée. Rien n'est perdu. Au contraire, la musique de tous les plaisirs est transposée dans une tonalité infiniment supérieure. » Des fois, on se dit « Ouais, mais comme il n'y aura plus de mariage, on va perdre quelque chose. » Mais non, on ne perd rien du tout. Même les célibataires ne seront jamais préparés pour rien, car ils vivront réellement les plaisirs du mariage transposés dans une tonalité infiniment supérieure. En pensant au mariage, on peut se dire, mais quand un père donne un merveilleux cadeau à son fils ou à sa fille, ce n'est pas parce que l'enfant utilise mal le cadeau que le cadeau est moins merveilleux. De même pour le mariage. Jésus aime le mariage, c'est un don de Dieu dans lequel nous sommes appelés à grandir dans la sainteté, dans le don de soi, dans la confiance mutuelle, pour une mission commune de glorifier Dieu en tout temps. Jésus dit que l'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a uni. Donc cherchons par tous les moyens à vivre la réconciliation. Et commençons par vivre cela dans nos relations, même si nous ne sommes pas mariés. Parce que soit nous remplissons notre vie de trésors que nous prendrons avec dans le mariage, ou soit nous remplissons notre vie d'épaves que nous prendrons aussi dans le mariage. Parce que le mariage ne transforme pas par miracle, pouf, ce que nous avons amassé toute notre vie. En fait, le mariage assemble ce que deux personnes ont amassé dans leur vie. Donc amassons plutôt le dégoût du divorce et l'amour de l'alliance que Dieu a mis en place. La réconciliation avec ceux qui sont autour de nous. Jésus a contracté une alliance avec son Église et nous pouvons chacun en faire partie de cette alliance en reconnaissant notre péché, le regrettant, nous détournant du péché et en croyant que Jésus a payé, qu'il lave, qu'il purifie en comptant sur l'œuvre de l'Esprit qui transforme nos vies. Il lave et purifie, c'est l'Évangile. Donc personne ici peut dire « je suis dans une situation, c'est fini, je ne peux plus rien faire ». Non, l'évangile de Jésus-Christ, c'est venez à lui. Il nous purifie, il nous lave. Et chacun peut entrer dans une alliance qui ne se brisera jamais. Une alliance dans laquelle il n'y a que amour, vérité, bonté, bienveillance, recherche du bien. Cette alliance de Christ avec son Église. Êtes-vous entré dans cette alliance, dans ce mariage entre Christ et l'Église ? Vivez-vous le mariage ou désirez-vous vivre quand ce sera le moment comme un miroir de cette alliance qui est parfaite ? Alors on le vit bien imparfaitement, c'est vrai, mais conscient et désireux de plaire à ce Seigneur de gloire. Nous arrivons à la conclusion. Comme en Marc 10, lorsque quelqu'un veut nous parler de divorce ou nous piéger, remettons d'abord les bases en place. Posons des questions. Et remettons les bases en place que Dieu a voulu dès l'origine, afin que personne ne puisse voir le divorce comme étant une bonne chose. Non, ce n'est pas une bonne chose. C'est toujours la manifestation de la dureté de cœur qui a des conséquences néfastes, particulièrement spirituellement. Et deuxièmement, rappelons-nous aussi que Jésus est venu pour ceux qui ont le cœur dur, pour ceux qui ont aussi le cœur brisé, afin de nous sauver. Et si vous vous rendez compte ce matin que votre cœur est dur, n'hésitez pas à prier Dieu, à demander pardon. Jésus-Christ, l'époux de l'Église, est mort pour nous libérer de notre cœur dur. Il restaure l'idéal du mariage divin. Il guérit les blessures et donne la sécurité. Il donne une stabilité à la famille et à la société. Il purifie et amène la paix. Aimons le mariage et détestons le divorce avec la même force et la même conviction que Jésus. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous sommes ce matin dans ce voyage, dans cet évangile où nous rencontrons les pharisiens qui veulent piéger Jésus. Et nous sommes face à un enseignement tellement profond que nous désirons, Seigneur, que tu nous permettes de le comprendre par ton esprit. Seigneur, tous ici, nous pouvons venir vers toi et confesser que dans notre vie, nous avons vu clairement que nous avons le cœur dur, que parfois nous ne vivons pas selon ta parole, et que lorsque nous ne te connaissions pas, nous n'étions même pas conscients. Mais nous voulons aussi reconnaître ce matin que Jésus-Christ est venu pour justement nous laver, nous purifier, enlever ce cœur de pierre pour nous donner un cœur de chair. Nous voulons, Seigneur, te louer et t'adorer parce que tu as, dès le commencement, mis en place une structure sociale qui était bonne pour l'homme avant la chute, qui est toujours encore bonne pour nous après la chute, mais où nous avons besoin de ta grâce, besoin de ta force, besoin de la compassion qui vient de toi, besoin de ta patience, besoin aussi de nous plonger dans ton amour pour que nous soyons capables de nous donner sans attendre en retour. Que nous puissions rechercher réellement la réconciliation et la paix. J'aimerais te prier, Seigneur, pour tous ceux qui ont vécu, subi des divorces, parmi nous, autour de nous. Seigneur, nous ne pouvons que venir vers toi et te prier de panser les plaies, de relever, de fortifier, de guérir et de donner la paix que toi seul peux donner. Sois loué et béni dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.